19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Si on n'a pas de livraison de vaccins dans les semaines qui viennent, c'est parce qu'ils ont été consommés ce week-end et donc c'était pour faire de la communication. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on ne fait pas ce qu'il faut pour vacciner le plus vite possible.
Les médecins généralistes sont en colère. Les doses avec lesquelles ils devaient vacciner leurs patients la semaine prochaine sont finalement réservées aux pharmaciens.
L'assassinat de Samuel Paty, la collégienne à l'origine des accusations, reconnaît avoir menti, son père également. C'est lui qui avait relayé l'information sur les réseaux sociaux.
Un lundi de grève féministe en France, en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, des associations ont appelé à une marche des premières de corvée.
La libération au Sénégal de l'opposant Ousmane Sonko. Didier François nous dira que jamais encore dans ce pays, considéré comme un modèle, c'est vrai, de démocratie en Afrique de l'Ouest, on avait connu de telles tensions.
Et puis on donnera la parole à Sébastien et à Virginie. Ils sont policiers et ce matin, ils ont vraiment eu le sentiment d'avoir été au bon endroit, au bon moment.
La météo avec Anissa Haddadi, soleil et fraîcheur, voilà pour le programme demain.
Oui, le ciel sera dégagé effectivement demain, très lumineux sur une grande partie du pays. Quelques nuages et des petites averses s'accrochent encore dans quelques régions. Les températures sont froides demain matin. On va gratter les pare-brises. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La crise sanitaire côté pile. On a vu tout ce week-end ces images de centres de vaccination ouverts pour la première fois le samedi et le dimanche un peu partout en France. Et ces dizaines de milliers de personnes vaccinées en 48 heures. Côté face, on a des médecins généralistes pas contents.
Oui, car les doses d'AstraZeneca avec lesquelles ils devaient vacciner la semaine prochaine leurs patients sont finalement réservées aux pharmaciens. Et ça ne passe pas, Lionel Gougelot, vous êtes notre correspondant dans le Nord.
Ah oui, et c'est même une vraie colère qui gagne les médecins de ville, à l'instar du docteur Calafiore à Waterloo près de Roubaix, qui va devoir annuler des rendez-vous de vaccination puisque les doses qu'il devait commander seront réservées à la vaccination en pharmacie.
On nous a demandé de prioriser les patients qui ont des problèmes de santé pour pouvoir les vacciner le plus vite. Donc on a commencé à organiser les vaccinations en leur fixant des rendez-vous. Et là, quasiment du jour pour le lendemain, on va devoir les appeler pour décommander les rendez-vous. Et les vaccins vont être redirigés vers les pharmacies et donc les patients qu'on ne va pas pouvoir vacciner nous. Est-ce qu'ils vont pouvoir être vaccinés par le pharmacien? C'est même pas sûr.
Situation ubuesque qui illustre une nouvelle fois la pénurie des stocks, selon le docteur Calafiore, qui se demande par ailleurs si ce n'est pas ici aussi la conséquence des opérations de vaccination massive organisées ce week-end dans la région Nord.
Si on a fait des grandes opérations de vaccination là ce week-end, les vaccins, il a bien fallu les prendre de quelque part. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, si on n'a pas de livraison de vaccins dans les semaines qui viennent, c'est parce qu'ils ont été consommés ce week-end. Et donc, c'était pour faire de la communication. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on ne fait pas ce qu'il faut pour vacciner le plus vite possible.
Deux syndicats de médecins demandent maintenant la démission de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, accusé de détournement de vaccins au profit des pharmaciens. À Tourcoing, le représentant de la CSMF appelle, lui, ses confrères à suspendre leur participation au centre de vaccination.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.
Une vaccination, en tout cas, qui devient de plus en plus urgente. Au vu de la situation actuelle en Île-de-France, notamment, l'Agence régionale de santé ordonne aux hôpitaux et aux cliniques privées de la région de déprogrammer 40% des opérations non urgentes pour faire de la place aux patients Covid. Ils sont de plus en plus nombreux en réanimation, de plus en plus jeunes également.
Oui, les services sont saturés. Dans le journal de 18h, un médecin nous disait qu'il est urgent de prendre des mesures sans attendre, même si l'on sait que pour l'instant, le gouvernement ne souhaite pas reconfiner l'Île-de-France. 19h03, on en vient à l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. Et on a donc la confirmation aujourd'hui que l'adolescente qui accusait l'enseignant d'islamophobie a bien menti. Elle l'a avoué au juge.
Elle n'était pas présente lors du cours sur les caricatures de Charlie Hebdo. Et l'on découvre également que son père, qui est mis en examen pour complicité d'assassinat et qui avait partagé l'histoire de sa fille sur les réseaux sociaux, et bien que son père est finalement revenu lui aussi sur sa version, Justin Morin.
Effectivement, sur les réseaux sociaux, il n'avait pas eu de mots assez durs pour dénigrer Samuel Paty, un voyou de l'histoire, malade à virer. Il avait même appelé à se mobiliser. Mais lors d'un nouvel interrogatoire il y a un peu plus d'un mois, il s'est repenti. Il a expliqué au juge que les caricatures, la discrimination, finalement, ça n'était pas son sujet. Je cite, il s'en fiche. Non, il était surtout en colère parce que sa fille avait été exclue 2 jours du collège. Je voulais me comporter en bon père, a-t-il dit. J'ai été con, stupide. Je dois la vérité à cette famille-là, à M. Paty, à toute la France. Un revirement qui interroge l'avocate de la famille Paty, Virginie Leroy.
Je trouve ces explications légères et de circonstances. On ne peut pas se réfugier derrière la prétendue colère qu'aurait générée cette décision d'exclusion. en en faisant reporter la responsabilité sur Samuel Paty, c'est faux. Donc les explications qui sont fournies aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de l'acharnement qui a été mis en œuvre contre Samuel Paty et ne fournissent pas de clés de compréhension.
Le père de la jeune fille est poursuivi pour complicité d'assassinat terroriste. Il est emprisonné à Fresnes depuis sa mise en examen il y a 4 mois et demi.
Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
En cette journée internationale des droits des femmes, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce lundi à Paris pour réclamer l'égalité femmes-hommes.
Égalité en termes de salaire, mais surtout en termes de respect, Marine Proté.
Stop à la culture du viol, c'est l'un des principaux mots d'ordre que l'on peut lire sur les pancartes. Une revendication que les organisatrices de la manifestation expriment en chanson. En combinaison bleue, bandeau rouge dans les cheveux, symbole de la révolution féministe, Martine réalise la chorégraphie qu'elle a inventée avec son collectif Les Rosies. Mais derrière cette ambiance festive, un message lourd.
On continue à accepter le viol, on accepte cette liberté sur le corps des femmes. On peut se faire siffler dans la rue, on peut se faire traiter de salope parce qu'on a une robe courte. Dans le boulot, elle est ma biche, tu veux pas venir m'aider? De quel droit?
D'autant que les agresseurs ne sont pas toujours punis, lance Enora, 21 ans.
Je suis à Sciences Po et je connais des violeurs ou des agresseurs sexuels qui ont été changés de campus pour éviter leur exclusion et qui ont évidemment récidivé dans leur nouveau campus.
Alors forcément, quand le cortège fait étape devant la Sorbonne, ça lui parle.
Nous, on est l'UNEF, on est le syndicat étudiant et on va vous lire quelques témoignages qui ont marqué l'actualité. Je m'appelle Juliette, j'ai 20 ans, j'ai été violée au lycée, en vacances et à l'IEP.
Et pour que les viols cessent, l'UNEF, comme les 36 autres organisations présentes à la manifestation, appellent à éduquer nos fils avant d'avoir à protéger nos filles.
Le reportage de Marine Proté dans la manifestation parisienne en faveur du droit des femmes.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h08, la suite du journal. Et on a choisi ce soir, parce que ça fait du bien, c'est vrai, de vous raconter une belle histoire. Une belle histoire qui met en scène deux policiers.
Et on va leur donner la parole d'ailleurs. Ils s'appellent Sébastien et Virginie. Et ce matin, à Ris-Orangis, dans l'Essonne, en banlieue parisienne, eh bien, ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude de faire.
J'ai vu cette dame allongée par terre et j'ai vite compris qu'elle était enceinte et qu'elle avait des contractions très très rapprochées. Donc il faisait froid, il faisait moins 2 degrés le matin. Le papa était à côté, mais il ne savait pas trop quoi faire. J'ai commencé à regarder et puis là l'équipage de Virginie est arrivé. Donc j'ai préféré laisser ma place à Virginie.
Donc moi je suis allée sous une couverture de survie, sous la robe de la dame. Et en fait c'est vraiment dur pour elle, elle a très très mal et je la comprends tout à fait, elle n'a pas de péridurale. C'est très violent, ça va très vite. D'un seul coup, je vois des petits cheveux noirs qui sortent. Les pompiers ne sont pas là, tant pis. Je me suis rappelée de mon accouchement. Je l'ai mis dans la même position, je l'ai mis sur le dos. Et puis d'un seul coup, expulsion du bébé. Et en 2 secondes, le bébé, il était là. On l'a entendu pleurer immédiatement. Donc là, c'était le gros soulagement. Moi, j'ai les larmes qui sont arrivées. D'émotion, hein. J'étais contente que tout se passe bien, j'étais contente pour la maman du beau bébé qui était une petite fille, donc on lui a dit que c'était une petite fille. Donc les pompiers l'ont vite emballé avec la couverture de survie parce qu'à moins de 2 degrés c'était horrible, la maman a claqué des dents et de là le SMUR est arrivé, ils l'ont emmené à l'hôpital. Le pauvre papa qui était un peu perdu, il était resté sur place, les pompiers ils n'ont pas pensé que c'était le papa, donc nous on s'occupait du papa, comme ça on les a accompagnés jusqu'au bout, c'était le top, c'était beau, franchement c'était beau, ça change de notre quotidien où parfois c'est très difficile. La semaine dernière, c'était des attaques à coups de couteau. Puis là, aujourd'hui, on fait accoucher une femme. Donc ouais. Franchement, c'est génial. Nous, on est contents, on a du bonheur enfin et ça fait du bien.
Ça fait du bien.
Sébastien et Virginie, deux policiers du commissariat d'Evry dans l'Essonne avec Guillaume Bier. La petite fille est en pleine forme, elle s'appelle Myriam.
Bien. Dans l'actualité également, la mise au point d'Oprah Winfrey, la présentatrice américaine qui a interviewé Meghan Merkel et le prince Harry la nuit dernière. Disculpe la reine Elisabeth II et le prince Philippe.
Oui, parce que vous savez que Meghan Merkel a porté de lourdes accusations. Elle a affirmé que quelqu'un dans la famille royale avait exprimé des inquiétudes sur la couleur de peau de son futur bébé quand elle était enceinte d'Archie, laissant entendre que peut-être la cour royale d'Angleterre était raciste. Oprah Winfrey précise donc que ni la reine ni son époux ne sont à l'origine de ces propos qui ont créé un électrochoc en Grande-Bretagne. Les Britanniques ont également été choqués d'apprendre que Meghan Merkel avait eu des pensées suicidaires lorsqu'elle vivait encore au sein de la famille royale. Et Harry s'était senti vraiment lâché par son père, le prince Charles.
Bien, et on en parlera évidemment dans quelques minutes dans le débat du Club des Idées consacré ce soir à ce séisme pour la monarchie britannique avec notamment Stéphane Bern qui sera avec nous. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est sorti libre cet après-midi du tribunal de Dakar où il était entendu par un juge dans une affaire de viol. Accusation que le député a toujours démentie. Son arrestation la semaine dernière avait déclenché des émeutes et des pillages dans tout le pays. 5 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre.
Et on en parle ce soir forcément avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Un tel niveau de violence, Didier, le Sénégal ne l'avait jamais connu.
Alors ça c'est sûr, hein, des blindés déployés dans les rues de Dakar, c'est du jamais vu, tout comme les coupures d'accès aux réseaux sociaux ou la suspension d'émissions de chaînes de télévision pour le pays considéré comme modèle de la démocratie en Afrique francophone de l'Ouest. Ce sont des mesures tout à fait inhabituelles, révélatrices du haut niveau de tension qui existe au Sénégal. D'ailleurs, depuis maintenant plusieurs mois, l'arrestation en fait mercredi dernier d'Ousmane Sonko, le principal opposant au président Macky Sall, n'ayant été finalement que la petite étincelle qui a provoqué la déflagration, la première raison profonde de cette flambée de violence, c'est l'effet Covid-19. Les conséquences économiques de la crise sanitaire qui sont terribles, parce qu'il faut savoir que la majorité de la population dépend pour sa survie du secteur dit informel, qui sont tous ces petits boulots qui vont de la vente de cigarettes à l'unité jusqu'à la fabrication artisanale de pièces pour vieilles automobiles. C'est 97% des créations d'emplois et 45% de création de richesses du pays. Donc vous imaginez les effets dévastateurs des mesures de couvre-feu sur les niveaux de revenus de jeunes plus ou moins précaires dans une société où la moitié de la population a moins de 20 ans. Or, ce sont justement ces jeunes exclus qui sont les plus sensibles au discours d'Ousmane Sonko, qui, lorsqu'il dénonce une recolonisation de l'économie sénégalaise par la France avec la complicité des élites locales, c'est un peu populiste, mais ça marche. Et c'est d'ailleurs ce qui explique les pillages systématiques des commerces français au cours de ces manifestations.
Oui, alors ça, c'est pour le contexte social général et puis la forme, mais on parle quand même d'une accusation de viol, c'est pas rien.
Oui, malheureusement, elle est portée par une employée d'un salon de massage où Ousmane Sonko a effectivement des habitudes, mais à ce stade, la parole de son accusatrice est totalement inaudible pour les manifestants qui voient derrière cette inculpation un coup monté par le pouvoir. Il faut quand même dire que Ousmane Sonko est le troisième opposant sérieux au président Macky Sall à se trouver empêtré dans les filets judiciaires qui pourraient mettre un terme à ses ambitions politiques. Avant lui, déjà 2 candidats potentiels à la présidence ont été condamnés pour corruption puis graciés, mais après avoir été déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel, ce même Conseil qui a également écarté 4 anciens ministres au profil prometteur et qu'on aurait pu prendre ou considérer comme des dauphins potentiels du chef de l'État, ça finit pour faire beaucoup. Il serait peut-être temps que Macky Sall assure clairement qu'il ne va pas briguer un troisième mandat en 2024, ce qui serait contraire aux règles électorales du Sénégal.
Bien, merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h. C'était le journal d'Isabelle Millet. À demain, ma chère Isabelle, à partir de 18h. La météo, Anissa Dadi, qui nous annonce, Anissa, une journée agréable, hein, demain, printanière. Avec du beau temps sur toute la France. Et il faut en profiter parce que c'est le dernier jour.
Oui, c'est le dernier jour, effectivement. Le changement de temps, il est prévu pour mercredi. Alors, en attendant cette journée de transition mercredi, demain, la situation va s'améliorer dans le sud avec un temps beaucoup moins instable, beaucoup plus d'éclaircies demain. En fait, c'est sur les Pyrénées, la Côte d'Azur et la Corse que les nuages et les averses vont s'accrocher demain. Ce sont de petites averses et des nuages qui viendront de temps en temps masquer le soleil. Une petite perturbation a lieu actuellement sur la mer du Nord. Elle touche le Benelux et demain, elle va un petit peu déborder sur la France. Et du coup, le ciel sera un petit peu plus gris des Ardennes à la Lorraine, hein, le long des frontières belges et luxembourgeoises. Mais nous aurons là aussi quelques petites gouttes seulement. Les températures, et c'est là qu'il va faire froid. Et c'est là que demain matin, vous allez gratter les pare-brises avec moins 4 à Montluçon, moins 3 à Auxerre, Clermont-Ferrand et Aurillac, moins 2 à Nancy, Metz et Belfort, moins 1 pour Rouen, Tours, Nantes et Saint-Étienne, 2 à 10 degrés partout ailleurs et 7 à 16 degrés demain après-midi. Ça remonte un petit peu sur la moitié nord, il fera un petit peu plus doux.
Frisqué quand même.
Mais c'est froid le matin.
Merci
ouais.
Anissa, voilà, vous avez entendu le message. Si vous avez l'occasion de ne pas aller bosser, profitez-en. Parce qu'après c'est terminé, rideau. Hein. Merci Anissa, on vous retrouve demain à partir de 18h.
Europe 1, écoutez le monde changer.